Pourtant, quand on va à l'urgence, on a donc mal. Hein? On a toujours un gros problème, j'ai une douleur, j'ai ci, j'ai ça. Puis là, ben, on va rencontrer l'infirmière. On est penaud, on a le taquet bas, on est palette un peu. Puis là, on explique que des maux de cœur, puis des ci, puis des ça, j'ai un point dans le dos, j'ai une infection là, puis ça me prendrait un médecin, puis etc. Puis là, on vous classe le urgent, moyen urgent, pas trop urgent. Et on vous dit de vous asseoir. Puis 6h, 7h plus tard, 8h, il y en a beaucoup qui se lèvent puis qui sacent leur camp. En fait, il y a une étude qui a été faite là-dessus, très intéressante. C'est une étude qui dit qu'il y a 1000 personnes par jour qui revirent de bord carrément à l'urgence. Pour nous en parler, auteur de cette étude-là, analyste associé senior à l'Institut économique de Montréal, Patrick Derry est avec nous. Bonjour, Monsieur Derry.
Bonjour.
Expliquez-nous, là, premièrement, où c'est que vous est venue l'idée de compter le monde qui revirait de bord à l'urgence, vous?
Ben écoutez, moi, je m'intéresse de façon générale au système de santé, à plusieurs de ses aspects, notamment les temps d'attente en urgence. Et la dernière fois que j'ai regardé ça, bon, ça m'a frappé, il y avait une différence entre le nombre de patients qui arrivent à l'urgence et le nombre de patients dont les priorités sont traitées. Et j'ai voulu savoir quelle était la raison de cet écart-là. Il y a à peu près 3 700 000 visites par année à l'urgence, puis il y en a 3 200 000 qui sont traités. Fait qu'une partie de ces patients-là, ils sont réorientés ailleurs dans le système. Par exemple, on leur dit, ben regardez, vous pouvez aller à la clinique demain ou après-demain, on va vous trouver un endroit. Mais il y a une autre partie de ces patients-là, puis ça, c'est les données du ministère là, que j'ai vérifiées, c'est 380 000 patients chaque année qui, eux, quittent simplement avant d'avoir vu un médecin, d'où le chiffre de 1000 patients par jour.
Donc, ils sont tannés d'attendre, puis finalement, ça fait pas si mal que je pensais. C'est un petit peu ça?
Ils sont tannés d'attendre, oui, ça fait pas si mal. Écoutez, vous avez quand même 20 % de ces patients-là, donc 200 par jour, c'est des priorités 2 ou 3. Donc, ça veut dire que l'infirmière au triage a considéré que leurs conditions pouvaient mettre leur vie en danger. Ça veut pas dire qu'ils sont morts en sortant de l'hôpital, mais... Ouais. Ça veut dire que c'est une condition qui est quand même assez sévère. Et même pour les autres, les patients de priorité 4 ou 5, parce que la majorité des cas à l'urgence, c'est des cas qui pourraient être traités en clinique, une priorité 4, ça peut être une fracture. Fait que ça ne veut pas dire que ça fait pas mal. Mais c'est ça, les gens, à un moment donné, ils sont tannés. Puis par exemple, ça peut être un jeune enfant qui est malade, ou même des fois avec une fracture qu'on sait pas encore que c'est une fracture. On dit, hey, ça fait vraiment mal, mais là, ça fait 8-9 heures que je suis là. Je vais peut-être être mieux d'aller dormir chez nous puis d'aller à la clinique demain. Fait que c'est le genre de choses qui peuvent arriver.
OK. Ça a des incidences, évidemment, dans tout ce que vous avez étudié. Ça a une incidence économique. Ça a aussi, il faut qu'on en tienne compte. Ça veut dire que les gens, on paye des impôts pour être soignés. On a besoin de soins de santé. On est trié, on est passé au triage. On nous dit que c'est une priorité quand même. Ça peut même jusqu'à mettre notre vie en danger. Puis au bout du compte, on reçoit pas les traitements pour toutes sortes de raisons. C'est inadmissible.
Oui, ben c'est des dépenses de santé qui sont quand même assez élevées au Québec, puis dans le reste du Canada aussi. Si on se compare aux pays développés, on est un petit peu en haut de la moyenne. Mais c'est des décennies de rationnement puis de mauvaise politique publique. Par exemple, au Québec et au Canada, on a décidé de rationner assez sévèrement le nombre de médecins, ce qui fait qu'on est parmi les endroits dans les pays développés où il y a le moins de médecins. Fait qu'il y a pas vraiment de miracle à faire avec ça. Vous regardez en Europe, il y a des pays qui ont, la France, je pense, c'est quelque chose comme 30 % de plus de médecins, l'Allemagne 50 % puis l'Autriche en a pratiquement le double en proportion de sa population. Ça, c'est sûr que ça n'aide pas. Il n'y a pas de miracle à faire pour ça demain matin, mais on pourrait justement relever ces contingentements-là qui sont artificiels pour, si vous voulez, alléger la situation dans 10 ans. On laisse pas les pharmaciens et les infirmières au Québec ont des champs d'exercice qui est pas mal plus limité qu'ailleurs au Canada ou encore en Europe. Il y a des avancées qui ont été faites là-dessus, mais on pourrait aller plus loin. Puis je parle pas seulement des infirmières praticiennes. Dans le nord du Québec, les infirmières font bien des choses qu'elles n'ont pas le droit de faire lorsqu'elles reviennent en ville. Fait que ça, c'est des barrières qu'on peut enlever pour les patients. Puis dans le cas des infirmières, des pharmaciens, ça pourrait donner un coup de main assez rapidement.
C'est assez clair qu'il faut trouver des solutions. Je pense que la ministre McCann parle beaucoup en ce sens-là, mais c'est pas évident quand on est dans un système de décloisonner tout ça et de permettre, il y a de la résistance partout, là, entre autres des médecins là, là-dessus, M. Derry.
Oui, absolument. L'année passée, d'ailleurs, il a fallu que le Collège des médecins et la Fédération des amis praticiens s'est fait un petit peu faire une clé de bras par la ministre, puis ils ont accepté une certaine ouverture. Mais malgré tout, ça va pas vite pour déjà l'élargissement des compétences des infirmières praticiennes. Et ça va moins loin que ça pourrait être. Par exemple, avec les nouvelles dispositions, une infirmière praticienne ne pourra pas référer un patient à un médecin spécialiste. Il va falloir encore aller par le médecin. C'est juste un exemple, là. Même chose pour les congés d'hôpital. Fait que toutes ces choses-là, ça fait une espèce de goulot d'étranglement où tout doit passer dans le médecin. Donc, à un moment donné, ce qu'il faut regarder, c'est quoi les meilleures pratiques? C'est quoi les solutions qui fonctionnent ailleurs? Et même s'il y a de la résistance dans certains groupes, il faut faire ce qui est bon pour l'intérêt du patient.
Bon, qu'est-ce qu'on doit faire, là? En attendant que tout ça survienne, on va au privé, quoi? On paye encore?
Non, ben écoutez, on va où on peut. Il n'y a pas de disponibilité. On manque de médecins, c'est de façon générale. Il y a moyen de voir des médecins en médecine privée, mais je veux dire, c'est pas...
C'est ça qui est plate, c'est que vous avez tellement raison, vous illustrez tellement bien le problème que les gens, là, il y en a... Moi, je pense qu'il y en a qui vont consulter beaucoup la médecine privée parce qu'on le sait que l'accès aux soins est difficile au Québec, puis l'attente, et ça s'éternise, etc., etc.
Moi, je vais vous dire deux petites choses là-dessus. D'abord, les consultations privées, il y en a, mais c'est une très, très, très petite partie à l'échelle nationale. Je pense que c'est quelque chose comme un 1% des consultations chez le médecin, c'est assez bas. Ceci dit, la différence entre nous et d'autres pays occidentaux, c'est que si vous allez en Europe, il y a du privé à l'intérieur du public. Puis je m'explique. C'est-à-dire que vous avez une assurance maladie comme la nôtre. Puis là, je ne parle pas des États-Unis, je parle des pays européens. Aux États-Unis, tout le monde n'est pas couvert, c'est un problème. En Europe, vous avez des régimes universels. Il y a une assurance publique ou un financement de l'État, tout le monde est couvert. Sauf que les hôpitaux ne sont pas tous gérés par l'État. Fait que vous avez des fournisseurs de soins, certains c'est des hôpitaux de l'État, d'autres c'est des hôpitaux qui sont gérés par des entreprises et qui sont accessibles à tout le monde. Fait que qu'est-ce que ça fait? Ça fait différents fournisseurs, ça fait différentes façons de faire, ça fait plus d'innovation, ça fait des hôpitaux qui sont souvent plus productifs puis plus performants puis qui tirent les systèmes vers le haut. Hein. En Allemagne, en France, en Espagne, en Italie, dans tous ces pays-là, plus du tiers des hôpitaux sont gérés par des entreprises privées à but lucratif, donc qui font des profits, mais vous vous présentez avec l'équivalent de votre carte d'assurance maladie. Donc, un petit peu comme les cliniques 1030 et Rockland présentement dans la région de Montréal, il y a des projets pilotes, les gens se font opérer, ils ne payent pas pour se faire opérer, mais c'est dans des cliniques qui sont gérées par le privé, les hôpitaux les envoient là. Puis les médecins qui travaillent là le disent, ils sont plus productifs qu'à l'hôpital.
Alors, c'est peut-être un modèle qu'il faudrait davantage regarder. Tant mieux s'il y a des projets pilotes, mais si on pouvait étendre ça un peu partout, ça pourrait peut-être aider la cause de ce que vous nous décrivez comme portrait aujourd'hui au Québec?
Absolument. On est rendu là. Faut toutes les barrières qui limitent l'accès aux soins. Si on veut pas s'en reparler encore dans 10 ans puis que ce soit pire, puis vous savez, le vieillissement de la population commence à peine à produire ses effets. La prochaine décennie, là, la population va vieillir. Hein. La cohorte des baby-boomers sont en train de vieillir. Ils vont avoir besoin de soins davantage. Ils vont avoir d'autres départs à la retraite dans le système de santé. Donc, si on se met pas en marge dès maintenant, ça va être vraiment pire dans 10 ans.
En terminant, M. Derry, nous, on est dans une région, l'Outaouais, où on nous a promis un nouvel hôpital. Flambant neuf, on va ajouter un hôpital ici sur le territoire de l'Outaouais. On parle de quelque chose comme 270 lits, si je me souviens bien, ou quelque chose dans le genre. Est-ce que vous pensez que c'est logique en 2020 de penser à ajouter un hôpital alors qu'on est en pénurie de main-d'œuvre?
Oui, bien, c'est... Disons, la planification se fait souvent des années à l'avance, puis après ça, ça peut être détaché un petit peu de la réalité du terrain. Là, c'est un peu un désavantage d'avoir un système qui est très bureaucratique, très centralisé. Tu sais, vous avez des pays là, qui sont de grosseur comparable au Québec, je sais pas moi, la Suède par exemple, l'administration de la santé est beaucoup plus décentralisée. Là, le ministère, il détermine les grandes orientations, mais c'est pas lui qui décide de la construction du financement des hôpitaux. Ça veut dire que, par exemple, ces questions-là de la construction des nouveaux hôpitaux puis de la disponibilité des soins puis leur financement, ça serait géré à l'échelle régionale. Ça serait probablement un petit peu plus adapté. Puis évidemment, la question du contingentement des médecins, mais ça sera pas réglé demain matin.
Monsieur Derry, merci beaucoup d'avoir pris le temps pour nous ce matin. Très intéressant. Il y a des pistes de solutions. Espérons qu'on va les trouver. Mais le portrait est quand même alarmant de savoir qu'il y a 1000 personnes par jour qui revirent de bord à l'urgence. Merci beaucoup d'avoir pris le temps pour nous ce matin.
Merci à vous. Bonne journée.
Patrick Derry, analyste associé senior à l'Institut économique de Montréal. Vous avez compris le topo. Ça vous est peut-être déjà arrivé. Levez la main ceux qui c'est arrivé. Moi. Ben oui. J'avais une infection à la suite d'une coupure. C'était infecté, c'était rouge, c'était pas beau, c'était laid. Après 7 heures, ben coudonc, m'aller mettre de l'eau frette, puis m'en mettre de l'alcool, puis m'attendre que ça se referme. J'ai pas eu de point de suture, j'ai pas rien eu. Puis j'ai une méga cicatrice lette à cause de ça. Ah oui, c'est ça. Fait que vous avez peut-être aussi vécu ça. C'était une urgence, c'était quand même prioritaire, m'avait-on dit. Prioritaire, dans le genre, ça sera pas long. 8 heures plus tard, ben voyons donc. Quelles sont les solutions? Vous voulez les entendre?